VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Bamako, 18h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Ici aux États-Unis, adieu final au légendaire boxeur Mohamed Ali à Louisville dans le Kentucky, sa ville natale. Il y a déjà eu hier une prière funéraire musulmane à laquelle ont participé des dignitaires tels que le président turc Recep Tayyip Erdogan. Aujourd'hui, ce sera l'inhumation. Eric Manirakiza.
C'est l'heure du dernier round. La famille a exhorté les médias à s'abstenir de prendre des photos ou filmer la mise en terre. L'ancien président Bill Clinton et le comédien Billy Crystal prononceront une partie de l'éloge funèbre. Le Turc Recep Tayyip Erdogan considère Mohamed Ali comme un combattant de la liberté, affirmant qu'il n'était pas seulement un champion ou une légende de la boxe. Une image symbolique, c'est Mohamed Ali portant un casque de sapeur-pompier après les attaques du 11 septembre 2001, une manière de dire que l'islam n'est pas une religion qui tue, mais de paix. L'inhumation se fera dans l'intimité absolue, en présence de ses enfants et de 6 autres personnes portant le cercueil de Mohamed Ali, notamment l'ancien champion du monde de boxe, Lennox Lewis. Adieu, Mohamed Ali.
Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com où vous pouvez suivre en direct les funérailles de Mohamed Ali à Louisville dans le Kentucky. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Nigeria, Amnesty International accuse des soldats nigérians d'avoir tué au moins 17 personnes lors d'une récente manifestation marquant le 49e anniversaire du début de la guerre civile du Biafra. L'armée a récusé ces accusations, Claire Morin-Gibault.
L'ONG rapporte que la tuerie s'est déroulée la nuit précédant la marche commémorative. L'IPOD, ou Mouvement Peuple Indigène du Biafra, affirme de son côté qu'au moins 50 de ses partisans ont été tués lors de raids de l'armée nigériane, notamment au sein d'une église où dormaient les sympathisants. Au cours de visites dans des hôpitaux et dans des morgues, Amnesty a établi un bilan de 17 morts et 50 blessés à Onitsha. Mais le chiffre réel est sans doute plus important, les corps ayant pu être emmenés ailleurs par l'armée. Certains des morts et des blessés ont été atteints par balles dans le dos, ce qui indique qu'ils étaient en train de fuir quand ils ont été touchés, précise Amnesty. L'IPOB a organisé de nombreuses manifestations à travers le sud-est du Nigeria depuis l'arrestation de son chef, Nnamdi Kanu, en octobre pour trahison. Il est toujours en détention dans l'attente d'un procès. La guerre civile du Biafra avait fait près d'un million de morts en 3 ans.
Gambie, l'ambassade américaine à Banjul est fermée depuis hier, à l'exception des services essentiels. Une décision prise après celle des autorités gambiennes de retirer leurs policiers assurant la protection de l'édifice. Les précisions de Morgane Guiriek.
Aucune explication n'a été donnée par le gouvernement du président Yahya Jammeh à cette décision qui survient après l'arrestation le 16 avril d'une citoyenne américaine de 45 ans durant une visite à sa famille dans le pays. Fanta Darbo Jawara, naturalisée américaine, a été arrêtée après une manifestation de l'opposition. Selon sa famille, elle n'avait rien à voir avec la manifestation et attendait simplement un taxi quand elle a été arrêtée et battue par la police. Le président du parti d'opposition UDP, Dembo Bojong, affirme que Mme Jawara est détenue dans la maison de l'avocat des droits de l'homme, Ousseinou Darbo, située près de l'ambassade des États-Unis. S'exprimant sous anonymat, un diplomate du département d'État américain, que cite l'AFP, a indiqué que les États-Unis ont fait part de leur inquiétude à la Gambie à propos du retrait des policiers. Il s'est toutefois refusé à établir un lien entre cette affaire et la polémique autour de l'arrestation de Madame Jawara.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RCA, le Parlement centrafricain a finalement approuvé ce vendredi le programme de politique générale du gouvernement, après 2 jours de débat. Les délibérations ont été laborieuses vu que le document était diversement apprécié par les élus de la nation. Mais le Premier ministre Simplice Mathieu Sarandji a défendu énergiquement pendant plusieurs heures aujourd'hui le plan d'action de son gouvernement contre les détracteurs du programme. Le compte-rendu de notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Le document a été diversement apprécié pris par les élus de la nation. Timoléon Baïkoua, député de Power 1, deuxième vice-président du Parlement.
Je pense que chaque Centrafricain s'est retrouvé à travers ce pléthore de constats faits par le Premier ministre. Il a parlé de quatre priorités sur la relance économique, sur le problème de la sécurité, sur la bonne gouvernance et enfin sur les problèmes sociaux.
Nombreux sont ceux qui se sont exprimés en faveur de ce programme du gouvernement. Toutefois, des députés comme Laurent Gonbaba de Baboua 1 y voient quelques manquements.
Malheureusement, ce programme ne précise pas un chronogramme de sa mise en œuvre ainsi que les moyens de la mise en œuvre de cette politique. C'est une faiblesse que j'ai relevée. Quand on parle de la politique générale, c'est une conception que nous voyons à ce niveau-là.
Freeman Sipila, Bongui, VOA Afrique.
Politique en RDC, l'opposition congolaise réunie près de Bruxelles a décidé de s'unir au sein d'une nouvelle structure baptisée Rassemblement. Elle exige le départ en fin d'année du président de la République, Joseph Kabila. L'accord des partis de l'opposition a été annoncé à l'issue de deux jours de conciliabule à huis clos. On écoute Joseph Olengakoy, porte-parole de la dynamique de l'opposition, à la clôture du conclave de Bruxelles.
Nous venons de réaffirmer ici l'unité de l'opposition et notamment dans l'unité d'action. Nous venons d'appeler à Joseph Kabila de libérer tous les prisonniers politiques et les médias d'État auxquels il a complètement à son service. Nous avons aussi trouvé d'autres résolutions, dont notamment à tous les Congolais qui se sont dans la diaspora, interdits de séjour dans leur pays, d'enlever ces mesures-là pour que les Congolais reviennent dans leur pays, qui est la terre de leurs ancêtres. Nous avons aussi demander à Kabila de se préparer que le 19 décembre 2016, à minuit, son mandat prendra fin et le 20, le peuple s'achargera.
Joseph Olengakoy, porte-parole de la plateforme dynamique de l'opposition en RDC. Au Congo-Brazzaville, le ministre de la Justice a demandé au procureur de la République d'engager une procédure contre le pasteur Ntoumi et d'accélérer celle en cours contre le général Jean-Marie Michel Mokoko, candidat malheureux à la présidentielle du 20 mars, mis en cause dans une vidéo tournée en 2007 visant à chasser le président Denis Sassou Nguesso du pouvoir. Les explications de Pierre Mabiala, ministre congolais de la Justice.
Je peux solennellement vous annoncer que fait commis par le pasteur Ntoumi et ses partisans le 4 avril 2016 sont des faits extrêmement graves. La justice congolaise en est saisie. Mais parce que nous sommes une justice équitable, que le pasteur Ntoumi fera l'objet des poursuites pénal, qu'il soit là ou pas. Si c'est des délits, eh bien, on pourra regarder ce qu'il faut faire. Mais si ce sont des faits qualifiés de crimes, alors à ce moment-là, nous procéderons à l'ouverture d'une information jusqu'au niveau de la cour criminelle, quitte à le juger même par contumace. En même temps, monsieur le procureur de la République, il faut activer la procédure judiciaire qui avait déjà été ouverte contre le général Mokoko Jean-Marie Michel. Il faut activer cette procédure parce que les procédures pénales ne doivent pas être rangées dans les tiroirs de la justice.
Le ministre de la Justice du Congo-Brazzaville, Pierre Mabiala. Proche-Orient maintenant, des dizaines de milliers de Palestiniens se sont pressés sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est pour la prière du premier vendredi de Ramadan. Et ce, malgré de nouvelles restrictions de mouvement annoncées par Israël après un attentat meurtrier. Le point avec Nathalie Barge.
Deux jours après l'attaque la plus meurtrière commise par des Palestiniens contre des Israéliens depuis des mois, Israël a annoncé ce vendredi le bouclage des territoires palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza jusqu'à dimanche minuit. Il y a toutefois deux exceptions pour les urgences humanitaires et pour les fidèles qui se rendaient vendredi à l'esplanade des mosquées. Mais les autorités ont imposé des limites. Les hommes en dessous d'un certain âge étaient interdits de franchir les postes de contrôle, tandis que les femmes et les enfants pouvaient passer sans restriction. L'État hébreu n'a pas voulu trop serrer la vis à un moment délicat où les Palestiniens célèbrent le mois du jeûne musulman et accordent beaucoup d'importance à la possibilité d'aller prier sur le troisième lieu saint de l'islam, situé à Jérusalem-Est. Personne ne sortait cependant de la bande de Gaza sous blocus permanent imposé par Israël.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. www.voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.